Bonjour tout le monde! Le trio économique aujourd'hui, là, il faut être indulgent avec Joey, là, sérieusement, il voulait pas le faire. Il se disait, non, moi, j'ai pas les compétences requises pour être ici. J'ai dit, sérieux, Joey, embarque, c'est rien que Vincent. Il a l'air impressionnant, là, mais c'est non, tout fait, cette pas. Affaire-là. Là. C'est,
ah non. La seule raison que Frank était là dans le show, anyway, c'était pour qu'on arrête de se poivrer aux 30 secondes.
C'est ça,
exactement. C'est ça la job de Frank.
Fait que là, c'est pour ça que je tente les deux. Là. Fait que là, j'essaie de
c'est pour ça que géographiquement, t'es localisé à cet endroit-là. Fait que bonne chance, Joey. Tu vas t'amuser comme il faut. On va se poivrer et t'essaieras de nous contrôler.
Hey, mais Vincent, tu me dis que tu as planté un Easter egg en Allemagne par rapport aux libéraux. Compte-moi ça.
Ouais, fait que pour ceux qui sont fans de hashtag Make the PLQ Liberal Again, c'est important de le partager. Il faudrait que la petite banderole apparaisse parce que tous les épisodes, il faut qu'on le dise une fois. J'ai fait une entrevue avec un des gros journaux allemands qui s'appelle Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est comme un des plus vieux en Allemagne. Et le profil, c'était sur mes recherches sur les inégalités. Puis pas particulièrement important pour le podcast, mais dans la photo qu'ils ont pris pour... ils ont pris une série de photos, puis j'ai réalisé mi-chemin quand ils prenaient les photos que c'était une bonne idée de prendre ma tasse de « Make the PLQ liberal again ». Donc, il y a la très grande possibilité que dans la photo du profil qu'il va avoir dans un grand journal allemand, il va avoir ma grosse face, qui est déjà difficile pour les Allemands. Mais tous les Allemands pourront savoir que « Make the PLQ liberal again », c'est quelque chose qui se passe au Québec.
Mais là, tu sais, on comprend plusieurs choses. Si un grand journal allemand comme ça s'intéresse à toi, c'est pas pour rien que les Allemands boivent autant de bière, là. Tu vois bien que ça s'intéresse à des choses louches, là.
Beer goggles, complètement, là. C'est comme quand t'es complètement sous, puis tu ramasses n'importe quoi dans un bar à 3h le matin quand t'es rendu à cette quantité-là. Moi, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ils étaient tellement sous, ils se sont dit, ben, il a l'air intéressant.
Eh hey boy, que j'ai manqué faire une bitchie, mais là, ça n'aurait pas été fin.
Ben non, c'est correct, vas-y, là. Non, il faut bien pratiquer Joey un peu, là.
On sait ce que t'as déjà voulu ramasser dans les bars à Montréal, là. Écoute un peu, là.
T'es-tu en train d'y aller avec une joke d'Émilie Nicolas, là? C'est ça que tu veux faire, là? C'est là que tu veux aller, là? C'est ça que tu veux faire? C'est ça que tu voulais dire? Tu l'as sorti de ton cœur, je l'ai fait pour toi, t'es content, là? La nuit, bon. Une fois sur une date, puis ça s'est fini avec « Will not happen again ». Elle était bien gentille en personne, c'est juste
j'en
il y avait
doute
zéro
pas.
Chance. Il y a zéro chance que... Tu sais, des fois, tu as des gens qui ont juste qui ont trop de valeurs divergentes. Tu peux pas être avec cette personne-là aussi gentille qu'elle peut être. Non, c'était juste... Il n'y avait pas d'alignement, fait que... Je pense que c'était réciproque, soit dit en passant.
Te connaissant, probablement. Probablement.
Je suis très sûr que c'était réciproque.
Le tramway de Québec, on n'arrête pas d'en parler. Nous autres, on est tannés d'en parler. Le projet, ils vont nous le rentrer dans le fond de la gorge. Mais tu nous étais avec ça, tu dis, je veux en parler dans le trio économique. Là, j'étais là, je dis, c'est quoi la langue qu'il va prendre? Je dis, y a-t-il vraiment de la littérature économique sur les tramways ou quelque chose comme ça? OK, fait que good. Je te laisse aller, mister.
Ben écoute, c'est dur de savoir par où commencer, là, mais en gros, voici le résumé le plus simple. Historiquement, les tramways, c'était quelque chose qui fonctionnait bien au 19e siècle, okay? Quand ça apparaissait. Mais depuis l'arrivée des autobus, les autobus sont capables de transporter plus de gens, moins cher, plus efficacement, avec plus de flexibilité, surtout si la population dans une ville se déplace entre quartiers. Fait que si tu as un réarrangement de là où est-ce que la population est, les bus font une job nettement mieux.
Et puis ça arrive, hein, des déplacements dans des quartiers.
Ah oui, solide. Écoute, juste à Montréal, là, si tu remontes, il y a 20 ans à Montréal, Hochelaga-Maisonneuve, Maisonneuve-Rosemont, donc l'île aux génies. J'ai vécu dans Hochelaga-Maisonneuve pendant quelques années. Puis je voyais les gens arriver en grand nombre à Hochelaga, à Houma. Voir des gens arriver en grand nombre, alors qu'avant, c'était un quartier qui se dépeuplait et les gens se déplaçaient vers Hochelaga-Maisonneuve.
Historiquement, c'est le quartier avant, ouvrier des francophones.
Oui, mais 20 ans avant, c'était le plateau qui se peuplait. Okay. Donc, tu sais, tu as des gros mouvements de population à l'intérieur de la ville.
Là, les commerces fuient le plateau présentement. Là. Je pense que les commerces vont s'en aller de là tranquillement, pas vite. Là.
Exactement. Puis en plus, tu ajoutes à ça la migration externe. Donc, tu as des gens à l'intérieur de Montréal qui se déplacent entre quartiers ou de grandes villes qui se déplacent entre quartiers. Mais tu as aussi des fois des gens qui se déplacent vers certains quartiers en particulier. Donc, tu n'as pas la même distribution de population. Mais le tramway, ce qui se passe, c'est que tes installations étant fixes, tu es obligé d'offrir le même volume de service à toute fin pratique que tu as décidé quand tu as installé l'aspect fixe. Alors que l'autobus est très facile à réorganiser. Donc, dollar sur des longues périodes de temps, les autobus sont nettement plus efficaces. Puis c'est la raison, puis surtout quand tu regardais historiquement les villes qui avaient des transports en commun, que c'était privé, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé quand le bus est arrivé, ça a disparu. En fait, Montréal est un super exemple de ça dans les années, jusqu'aux années 50, jusqu'à la ville de Montréal décide de nationaliser la STM. C'était largement privé.
OK, fait qu'à Montréal, jusqu'en 1950, le transport en commun était privé.
Oui, mais il y avait ce qu'on appelle une franchise exclusive. Il fallait que tu fasses une compétition pour le droit exclusif de faire le service à la ville. Mais comme il y avait compétition pour le contrat, c'était l'équivalent d'un système compétitif parce que le contrat définissait un peu les prix qui venaient avec. Mais une des affaires qu'il y avait, c'est que ça s'appelait encore le Montreal Tramway Company, mais c'était des bus. Tu avais encore des bus qui étaient utilisés. Puis dans plusieurs villes, ce que tu vois, c'est que ce qui s'est passé, parce que c'était privé, les compagnies privées allaient directement vers l'autobus, offraient un volume de service qui était plus grand, c'était plus facile pour eux d'offrir plus de services, mais aussi, ils étaient capables de contrôler les coûts bien mieux. Les seuls endroits où le tramway a survécu depuis le 19e siècle, c'est généralement des endroits où le gouvernement municipal est impliqué depuis le début.
San Francisco, mettons.
San Francisco, je ne suis pas sûr.
Pour le touristique, là. Il y a un aspect touristique à ça. Ouais,
c'est ça que j'allais dire. Des fois, ça peut être juste que c'est une compagnie privée. Je ne sais pas pour San Francisco, ça m'étonnerait parce que c'est San Francisco. Fait que j'ai comme des préjugés négatifs à l'égard de tout ce qui est Californie. Étant une personne qui pense que la Californie ne devrait pas faire partie de l'Union, pour moi, tu sais, je veux dire, j'accepterais l'Alberta dans l'Union américaine juste pour dire, pour garder le Sénat équivalent, admettons l'Alberta. Non, mieux que ça, admettons l'Ontario, mais on faisait partie de la Californie. Ah, ça te dit à quel point j'allais à Californie. Là. Je pourrais avoir Toronto avec moi dans le même pays. Écoutez ce pays qui avait Toronto. Fait que, te dire à quel point ça me fait mal au cœur, la Californie. Là. Quoique l'autre jour, j'étais à l'épicerie avec ma blonde, puis il y avait un vin californien. J'ai dit, j'achète pas de vin californien. Ma blonde a dit, même pour 3$, j'ai dit, ouais, je les aille pas de taxes.
Attends, une bouteille de vin californien, on se paye 3$.
3$, 3$. Un vin de sangria, là, je veux dire, c'était ça que ça a servi. C'était très bon pour eux, de la sangria. Je veux dire, je pense que c'est la meilleure manière d'apprécier de la Californie, une tonne de sucre, des épices, puis des fruits dedans.
Hey man, tu te rends compte que notre vin de sauce, là, tu sais, celui qu'on achète à l'épicerie pour faire de la sauce, là, ils nous le vendent à peu près 10$ le litre, c'est pas 11$.
Hein. Écoute, il y a un Aldi à côté de chez moi qui est une des épiceries les plus cheap. Donc, tu sais, c'est. Puis ils font des. C'est pas qu'ils sont cheap en termes de qualité, c'est qu'ils ont des trucs vraiment spécialisés de saison. Puis il y avait un vin à 1,22 la semaine passée. Puis ça a été mon vin de cuisson, effectivement. J'ai fait une sauce à ma tête, ça.
C'est l'enfer.
Hein, je veux juste. Puis après ça, la SAQ réussit à perdre de l'argent en vendant les choses à 12$. Une bouteille de vin de cuisson. Fait que tu sais, il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne pas. Mais en gros, là, pour revenir à San Francisco, je suis pas mal convaincu que je mettrais ma main au feu que peut-être la compagnie qui fait les tramways sur l'espèce de l'image de la pente que ça descend, là, je serais pas surpris que ça soit privé. Que c'est privé pour des fins touristiques. Donc, que les gens payent un peu plus cher, puis c'est pas pour transporter les gens qui sont dans San Francisco, c'est pour faire plaisir aux touristes.
C'est déjà pris. C'est déjà pris, puis effectivement, c'est juste des touristes.
Ben, puis le pire, c'est que je suis sûr que le prix, c'est bien plus que ce que tu paierais normalement. C'était pas une E25, là. Je suis sûr que c'était beaucoup plus que ce prix-là.
Les cable cars, que ça s'appelle. Je vais prendre le bout en anglais, je pense que c'est plus facile que. Operated by the San Francisco Municipal Railway. Ça a l'air quand même public encore.
Sans aucune surprise.
Bon, ben, tu vois, dans ce cas, ça veut dire que c'est juste subventionné. Mais en gros, là, historiquement, les tramways ont disparu pour cette raison-là. Mais les politiciens vraiment continuent d'aimer les streetcars, les tramways là, qui rentrent dans.
Majority of the millions of passengers who use the system every year are tourists.
I'm not surprised for 55 cents.
Non.
Mais en gros, les politiciens ont encore un trip là-dessus, largement parce que je ne sais pas pourquoi. Le bus, c'est pas glorieux. mais le tramway, c'est cute. Il y a une sorte d'idylle. C'est quétaine, c'est kitsch. Ça te donne... Tu peux couper un ruban, alors que personne ne coupe un ruban pour dire « Voici un autobus! »
Ça fait époque victorienne, un peu, là, tu sais.
Ouais. Oh, ouais, pas mal. Mais ce qui a vraiment relancé un peu le transport par tramway, c'était dans les années 90, Portland avait décidé de faire des gros réinvestissements dans un light rail line, qui est l'équivalent d'un tramway à toute fin pratique.
Hey, écoute, faut que je te lise la controverse qu'il y a par rapport à ces cable cars-là à San Francisco.
Vas-y.
The cable cars are an iconic part of San Francisco and are protected by national historic landmarks, but they are not without their critics. Most complaints center around the high cost of operating the system that mostly serve tourists and the large number of accidents involving the cable cars.
Ah, ça, j'étais même pas au courant. Je savais pas qu'il y avait plus d'accidents que...
C'est 7 millions de personnes à peu près qui le prennent dans une année.
Quand tu as du PCQ dans Jean Talon, ça, tu étais une des victimes du cable car de San Francisco.
Hey! En 2019, le déficit opérationnel des cable cars était de 46 millions de dollars. Hey, ils disent qu'il y a 7 millions de personnes qui le prennent dans une année. Tu sais, c'est comme s'ils perdaient 7 piastres par touriste qui embarque. À toutes les fois qu'il y a un touriste embarque là-dessus, il y a une subvention de 7 piastres qui vient de rentrer du gouvernement.
Ça, c'est pour garder des choses kitsch.
C'est malade, man.
Ah, c'est juste pour le look, là.
Ouais, mais je veux dire, c'est même pas une bonne attraction touristique. Ils font même pas une scène avec ça. Là. C'est... Tu sais, une attraction touristique, à la base, faut que ce soit rentable. Là. Les autres, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui passe la porte, ils viennent de perdre 7 piastres.
Ben écoute, le pire, c'est que je veux juste souligner un petit truc. Un, les chances que tu ailles à San Francisco pour ça.
Impossible.
Je te garantis qu'il y a personne qui est allé à San Francisco pour ce truc-là. Donc, un, t'as pas attiré des touristes additionnels sur cette prémisse-là, parce que c'est la seule prémisse sur laquelle tu pourrais subventionner puis faire plus d'argent parce que tu collectes plus de revenus de la taxation sur les commerces environnants. Donc, de un. De deux, je te garantis que c'est que des touristes... Pas que je te garantis, on sait que c'est que des touristes qui en bénéficient. Donc, il est où le stimulus à l'économie locale? Tu es le politicien, il est où le stimulus? Ça, je te garantis que si tu checkes 50$, que c'est tous les travailleurs de ce truc-là sont syndiqués, puis qu'il y a un syndicat super proactif qui participe à toutes les négociations de tous les contrats de la ville, puis la seconde que tu aurais un politicien municipal, un conseiller municipal qui dit « j'aimerais qu'on coupe la subvention pour qu'on fasse autre chose », tout le syndicat sort en masse, puis ce politicien-là perd son élection. Je te garantis que c'est la seule explication. Surtout parce que si c'était juste comme 1,10$ de subvention, mettons, au lieu de 7$,
hey, c'est gros, là.
Probablement que les gens ne cliqueraient pas et qu'il n'y aurait pas tant d'opposition que ça. Pour 7$ de subvention par tête de PIB, 7 fois le billet à toute fin pratique, là, ben, je te garantis qu'il n'y a aucun politicien qui veut toucher à ça parce que le syndicat il est vraiment content d'avoir ce type de job-là.
C'est de trouver voir s'il y a un syndicat là-dedans. C'est sûr qu'il y en a un. Mais...
Je suis 100%.
Oh, ouais, en Californie.
Je mets ma main au feu là, qu'il y en a un. Je ne peux pas croire. Mais pour vrai, là, fait que là, un, historiquement, pour revenir au tramway, c'était clair que c'était fini pour des raisons historiques. C'est juste plus cheap, point barre, d'utiliser les autobus.
C'est effectivement syndiqué. Par le Transport Workers Union San Francisco Municipal Railway Trust.
C'est comme si on était capable de faire des prédictions puis de les tester.
C'est fou, hein?
Ouais, hein? C'est incroyable. Mais Portland est revenu avec ça dans les années 90.
Portland, Oregon,
oui. Ils voulaient revenir avec un tramway. Le truc a coûté beaucoup plus cher de un à construire. Les dépassements de coûts ont été gigantesques. Regarde, j'ai les chiffres ici. Le surpaye sur le service, c'était 55% plus coûteux pour construire, 45% plus coûteux par unité d'opération qu'il était prévu par la ville, et ils ont attiré 54% moins de passagers qu'ils avaient prévu. Donc, ils ont juste vendu le projet en disant des chiffres complètement débiles, Fait qu'au final, le coût total par passager était 3 fois plus que l'estimé original.
Fait que l'Ips... ils se sont pas redomptés parce que, je me trompe-tu, ils ont fait des tramways aériens aussi.
Ben, ils continuent de faire ça. La Californie fait ça beaucoup avec les high-speed rails. Et il y a énormément de subventions qui sont données à ça, qui sont assez gigantesques. Mais quand tu fais la comparaison à travers les villes des tramways ou des light-speed rails, systématiquement, par kilomètre parcouru par personne, toujours, systématiquement, les streetcars performent moins bien. Ils sont plus coûteux à installer, ils sont plus coûteux à opérer. Donc, les gens disent, l'argument qui est présenté, OK, d'accord, ça coûte cher initialement, mais le coût de la première unité de service est tellement plus bas après. La deuxième, excuse-moi, unité de service est tellement plus bas parce que tu n'as pas autant de gaz que tu as besoin, tu n'as pas besoin d'autant d'équipement. La réalité, c'est que non, c'est pas vrai. Un, l'équipement se déprécie très, très vite. Mais dès que la population change de région, d'accord, le coût d'opérer n'a pas changé, mais les revenus de la chose ont changé. Puis tu dois créer des services ailleurs. Donc, tu dois soit créer des nouvelles lignes où est-ce que tu n'en avais pas. Il faut que tu fasses le coût fixe plusieurs fois. Ou bien, tu dois ouvrir des lignes de bus point barre pour complémenter ce que tu n'étais pas capable de faire. Donc, au final, c'est juste pas adapté pour les grandes villes. Les seules villes dans lesquelles ça a l'air de fonctionner puis que le bus n'a pas nécessairement un avantage, c'est des villes excessivement denses.
Européennes, d'ailleurs.
Même dans les villes européennes, là, tu prends le top 5 des plus denses, là, puis là, ça a des chances de fonctionner dans certains districts qui sont toujours peuplés depuis toujours. Genre, le centre-ville fonctionne très bien. C'est l'exemple classique de où est-ce que ça pourrait fonctionner.
Mais tu sais, c'est pas
la ville de Québec, une ville ne fit pas du tout là-dedans.
Une ville, c'est pas toujours SimCity. Je veux dire, tu ne compenses pas à la construire, puis là, la population arrive. Tu sais, pas de même, c'est fait. C'est tout le temps rabouté un peu au fil du temps.
C'est ça, parce que l'argument qu'on entend tout le temps, ben, surtout de marchand, peu importe, c'est que ah, ça coûte cher, mais comme dans Field of Dreams, build it and they will come. Là, yep. C'est ah là, ça va coûter un prix de fou, mais inquiétez-vous pas, ben, donnez-nous 5 ans, puis tous les coûts de rentabilisation vont venir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'en servir. Puis c'est un peu fausse
mais
promesse. Gens,
mais ça te montre un peu le. N'importe qui prendrait 2 secondes pour penser pourquoi tu te déplacerais dans une ville. Une ville, c'est un peu plus pollué que la campagne. De un.
Oui.
Deux.
Il y a du monde puis il m'énerve.
Les salaires sont plus élevés pour compenser. Fait que là, tu sais, faisons les coûts-bénéfices. Les salaires sont plus élevés dans les villes. Les services sont plus denses. Donc, tu as plus de choix de services. Tu n'as pas besoin de chercher très longtemps pour un truc en particulier. Tandis que si tu es comme certains de nos amis, tu es à Sainte-Catherine de Portneuf, je te garantis que tu dois faire au moins une couple de minutes de route pour aller chercher des trucs de base alors que. À Québec, tu peux te promener puis trouver les choses que tu veux assez facilement.
Ben écoute, j'ai vécu longtemps à Saint-Anselme puis j'ai mangé du Normandin pendant 10 ans. Je suis même plus capable d'y aller au resto aujourd'hui.
Mais je te garantis que si tu es capable d'augmenter les salaires à Québec de 1%, mettons, juste de 1% relativement à ce que tu peux avoir ailleurs, je te garantis que c'est l'effet plus important que d'avoir un système de tramway super efficace, même s'il n'est pas en cost overruns, qu'il est genre... qui est aussi cheap qu'une ligne d'autobus, mettons, pour simplifier. Je te garantis que le nombre de gens qui vont décider d'aller à Québec pour ça est limité. La quantité de gens qui vont aussi abandonner leur auto pour ça est aussi très limitée, tout simplement, parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont juste toujours avoir la même auto, mais ils vont la conduire juste un peu moins. Mais tu ne vas pas avoir moins d'auto en circulation. Au final, tous les arguments qui sont avancés, ce n'est pas que la direction est fausse. Probablement que ça attire une couple de personnes, mais ça n'attirera pas le nombre de personnes qui est proposé. Il n'y a aucune chance que ça fitte parce que ça voudrait dire que, étant donné les chiffres que les gens avancent, que la principale raison que tu vas dans une ville, c'est le transport en commun. Puis j'ai jamais entendu quelqu'un dire « J'ai déménagé à Montréal. » Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y avait une ligne de métro.
Oui.
Il n'y a personne qui a chose. Le Portland Aerial Tram, là, c'est une patente à gosse qu'ils ont faite à Portland, là, qui est un tramway aérien pour relier deux terminales, grosso modo. Là. Check la tarification, Vincent. Single round trip, 7$. Ça va monter à 8$ cet été, by the way. La passe mensuelle, 40$. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Ça te dit qu'il n'y a personne qui prend ça de manière régulière, là. C'est juste des touristes qui s'en vont là pour l'essayer. La passe annuelle, 440$. C'est pas cher, 440$ pour utiliser un transport en commun avec une passe annuelle. Mais pourquoi c'est pas cher de même? Parce qu'ils n'en vendent pas de passe annuelle. Alors, regarde ici ce qui est écrit. The Portland Aerial Tram provides an average 9000 transports par semaine, de jours de semaine plutôt. 85% c'est des visiteurs de OHSU. 15% c'est le public général et des touristes. Tu sais, t'es là, tu dis, crème, l'infrastructure qui a été mise en place, êtes-vous vraiment sûr que ça vaut à peine? C'est des projets complètement fous, des affaires de même.
Écoute, je suis en train pour le fun, là. Je regarde la population de Portland, elle a augmenté un tout petit peu, mais j'ai envie de regarder des villes qui ont du mass transit, mais
privé. Ça a coûté 57 millions, le tramway aérien à Portland.
Probablement juste du gaspillage d'argent pour vrai, mais je cherche présentement les villes qui auraient du transport en commun largement privatisé, soit dans l'opération, soit dans la livraison du service.
OK. Mais, OHSU, c'est un hôpital. Fait que c'est fait pour transporter des étudiants, des docteurs et des patients.
Ah, fait que la ville a subventionné des gens à haut revenu à toute fin pratique.
But the amazing views from the ride above the forested hills of Southwest Portland made it an instant tourist favorite.
J'aime tellement ça me faire bullshitter, là. Ça n'a aucun sens.
Paul. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, peu importe. C'est hors sujet un peu, là, mais...
Mais ça fit avec... Qu'est-ce que les politiciens... Ça fit avec le point que je faisais. Les politiciens, ce qu'ils veulent, c'est subventionner des choses qui ont l'air fantastiques, comme si c'était une huitième merveille du monde. La réalité, c'est que la job d'un politicien, c'est pas de créer la huitième merveille du monde. En fait, la plupart des merveilles du monde, si tu fais la liste des sept merveilles initiales de l'Antiquité, pas mal toutes construites de manière absolument atroce, pour des fins absolument atroces. Je veux dire, le fort d'Alexandrie, là, je suis sûr que si je regarde dedans, je suis sûr qu'il y a des esclaves en quelque part là-dedans. Fait que, je suis pas sûr que c'est un cas que tu veux vraiment faire. Fait que, créer une merveille du monde pour un politicien, c'est pas ce qu'il devrait faire. Un politicien devrait faire. Moi, je suis pas sûr qu'il est capable de, pour des raisons de théorie des choix publics, là. Je pense que c'est puis peut-être même pour des raisons de.
Ah, écoute, tu vas aimer ce que je vais te lire, là. Ça a coûté 57 millions, majoritairement quand même financé par OHSU. Fait que, tu sais, c'est plus l'hôpital. Il y a 9 millions qui viennent des taxpayers. Mais regarde ça. Accusation of mismanagement and subterfuge flew. But the original price was more civic self-delusion. The early 15 million estimate was pure optimism. Hey, ils ont présenté le projet.
Tu as dit que c'était 9 millions?
9 millions des taxpayers. Ça a coûté 57 au total. Fait que, OHSU Insiders, écoute, a privately guessed estimate the cost. OK, ouais, c'est ça. À peu près, fait qu'ils disent que c'est 57 millions, mais tu sais, t'es là, tu dis crime. Ça reste que c'est un hôpital qui a décidé de faire sa patente, c'est une bébelle, puis tout ça, mais ça a été présenté aux gens, aux décideurs qui ont dit, OK, on va de l'avant. Il y a beaucoup de sunk cost fallacy dans ces projets-là, là, on va se le dire. Là. Mais les décideurs qui ont eu à prendre cette décision-là, on leur a présenté un projet de 15 millions. Ça a fini à 57.
Ben, même le 9 millions de la ville, là. Portland, c'est pas une très grosse ville, by the way. Portland a une population de 600 000.
Ouais.
C'est chaque personne, pour le bénéfice d'une couple de médecins, puis d'infirmières, puis d'administrateurs d'hôpital.
Des patients aussi.
Peut-être des patients aussi.
Tu sais, quand t'as le flux,
$15 pour ça.
Quand t'as le flux, puis tu vas aller consulter, c'est important de prendre le tram aérien.
Absolument. Mais 15$, c'est $15 par personne de la ville. Puis c'est pas $15 par contribuable, c'est $15 par personne. Pour un truc qui est... Si tu me disais que c'était $15 par personne pour la collecte des déchets, je serais vraiment impressionné. Mais là, tu es en train de me dire que le coût, c'est $15 par personne...
Ça touche personne.
Qui touche pour aider une couple de médecins.
Tu es en train de dire, Vincent, que les tramways sont uniquement construits pour certains intérêts de certains groupes particuliers et non pas pour la population au grand complet.
Exactement. Mais pour vrai, la chose que je comprends pas, c'est que c'est qui bénéficie à Québec de ça.
Je comprends,
tu sais. Je suis pas capable de voir le groupe d'intérêt principal qui vient, autre que l'explication d'Yann, que c'est une manière, si le fédéral embarque, de juste passer une autre dépense en prétendant que c'est à propos de ça. C'est-à-dire que tu es en train, ce que c'est du ball shuffling, c'est une chaise musicale entre les politiciens, parce que le maire Marchand, il se dit, ben, si je pourrais dépenser 30 millions pour refaire toutes les infrastructures défaillantes, j'exagère le chiffre.
Ah non, tu n'exagères pas, c'est pas assez.
C'est pas assez, oui, excuse-moi.
Non, c'est ça, parce que...
Je veux dire, je sous-estime, je donne un faux chiffre, là. Je pense que le chiffre, c'est quoi, 3 milliards?
Ah, le tramway, ça va finir à 4-5 milliards, facile.
Okay. Mais l'initial proposé, c'est 3 milliards.
Ouais,
right?
Disons, ouais.
Bon. Fait que 3 milliards. Mais si lui est pour dépenser 3 milliards de son argent, puis s'il dit, ben, c'est pour faire les égouts, c'est pas glorieux, les égouts, c'est pas super trippant, les lignes d'eau, c'est pas super.
Et le fédéral trippant. Finance pas.
Ben, c'est ça. Mais là, si tu dis que tu fais le tramway, puis en même temps, tu peux faire les deux, tu peux faire du piggybacking, tu dis, ben, dans le processus, il faut que je casse certaines lignes d'eau, il faut les remplacer, ça fait partie du processus. Ben là, le ministre fédéral réussit à financer. Là, je peux voir la motivation. Puis là, ce que tu es en train de faire, c'est du shuffling à toute fin pratique.
Moi, ce qui me fait penser que c'est ça qui se passe, puis c'est la théorie qui est la bonne, c'est que tous les politiciens qui défendent ce projet-là, initialement, étaient contre. Fait que moi, le feeling que j'ai depuis le tout début, c'est qu'il y a des ingénieurs à la Ville de Québec qui ont levé des flags sur des grosses problématiques qui s'en viennent au niveau des aqueducs, des égouts, puis que la ville n'a pas nécessairement les moyens de financer ça. Ils ont fait le projet napkinien du tramway pour camoufler toutes ces dépenses-là puis aller chipper ça à quelqu'un d'autre. Moi, c'est le feeling que j'ai le plus depuis le tout début, parce que tous les maires qui sont rentrés en poste, qui défendent aujourd'hui ce projet-là, l'ont défendu après la sainte intervention de la fonction publique. Il était contre avant la campagne électorale. Fait que ce projet-là vient directement des fonctionnaires. Puis il y a une raison à ça. Moi je serais curieux d'avoir assez de transparence pour essayer de comprendre c'est quoi le déficit des infrastructures de la Ville de Québec en termes d'aqueduc et d'égout dans ce secteur-là de la ville.
Ben écoute, juste pour le fun, là, je suis dans le budget de la Ville de Québec. Pour voir. Fait que le budget de fonctionnement de la ville, c'est 1 700 millions, donc.
1,7 milliard.
Oui, 1,7 milliard. La dette nette, c'est 1,5 milliard. Donc, présentement, la dette nette est presque à peu près équivalente à le budget de fonctionnement de la ville. Ça devrait te donner une idée.
Puis ça parle beaucoup, ça, là. Imagine-toi le projet du tramway s'il n'était financé uniquement que par la municipalité. Donc, il n'y aurait pas d'argent fédéral, il n'y aurait pas d'argent provincial.
Il faudrait faire des prêts majeurs.
Ben, c'est que
des emprunts majeurs.
Il faudrait emprunter deux fois plus que ce qu'on a déjà emprunté à la Ville de Québec. Fait que vous voyez que le projet ne se ferait jamais. Fait que si la Ville de Québec a justement des infrastructures à refaire au grand complet, puis que ça coûte 1 ou 2 milliards de dollars, ben, l'idée de mettre un petit train électrique par-dessus pour essayer de chipper la facture à quelqu'un, c'est pas si fou que ça, on s'entend-tu? Là?
Écoute, là, l'autre chose que je veux voir là, pour les fins de la discussion, je veux voir les dépenses totales de la Ville de Québec. OK? Fait qu'en 2002, la Ville de Québec dépense 776 millions versus le 1,7 milliard. Donc, les dépenses de la Ville ont augmenté par à peu près un facteur de 2,5. Fait qu'on dépense 2,5 fois plus à Québec. L'inflation de...
c'est pas ça.
non, mais je veux juste enlever l'inflation puis la croissance de la population. Fait que la population.
Ça, t'en as une bonne, par exemple, une bonne croissance de population au Québec.
Fait que Québec, 2017, c'est le dernier que je vois ici sur Google. J'utilise juste Google ici. 545 000 personnes. Puis, bon, là, t'as l'affaire des fusions municipales qui cause un mini problème, là. Mais mettons que je prends 2006, qui toutes des trucs agglutinés, t'as 491 000 personnes.
Ouais. Okay? Ça.
Fait que t'as une augmentation d'à peu près 10 %. Mettons, pour générosité, 20 %. Fait que le doublage que je viens de mentionner, ce qui est à peu près 150 % d'augmentation dans le cas que le plus que doublage, t'enlèves 20 % de ça, t'as quand même augmenté les dépenses de 30 %. Je garantis que t'as eu peut-être, mettons, pour exagérer, t'as eu 30 % d'inflation en 2005 puis
en
aujourd'hui.
En fait, la mesure d'inflation, Dis-toi une affaire, c'est que ce qui est arrivé au niveau des municipalités du Québec dans les 15 dernières années, 20 dernières années, c'est l'augmentation de valeur des propriétés. Puis, je donne un exemple, mon compte de taxe à Lévis. Mon rôle d'évaluation a augmenté. Ma propre maison là, est passée d'évaluation municipale autour de 400 à 500. Fait que c'est 25 % d'augmentation dans une année. Mon compte de taxe n'a pas augmenté de 25 %. Il a augmenté de 11 %. Il a augmenté de 11 %. Fait que, tu sais, ils ont baissé un peu les taux de taxation parce qu'ils se disent ça n'a pas d'allure. Les maisons ont augmenté trop vite de valeur. Mais en bout de ligne, tu te dis, crime, c'est fou pareil, mais le compte de taxe a quand même augmenté de 11 %. C'est-à-dire, ouais, ben, le citoyen qui subit ajoute... ça, le 11 % d'augmentation dans une année, c'est une dépense pas prévue qui est assez importante. Puis ça, c'est arrivé à plusieurs gens dans la ville de Lévis, puis je sais que c'est arrivé à plusieurs gens dans la ville de Québec également.
Ouais. Ben écoute, là, tu vois, au final, on est en train de dire que les dépenses ajustées pour la population et l'inflation ont doublé à Québec. Es-tu en train de me dire que la demande de services a vraiment doublé à Québec?
Bien, pendant cette période de temps-là, là, ce qui est probablement arrivé, c'est que les bacs à ordures étaient ramassés toutes les semaines, et puis maintenant, on est aux 2 semaines et peut-être même 3 semaines dans certains secteurs.
Bon, fait que tu sais, présentement, ce qui se passe, c'est que la Ville de Québec a, comme beaucoup de gouvernements, pas un problème de revenus, ils ont un problème de dépenses.
Productivité.
Et de productivité du secteur public. Le résultat, c'est que la Ville de Québec dépense des fortunes et sa situation financière lui empêche de faire ce qui est pas mal, certaines missions qui, je pense, qui pourraient être privatisées. Je comprends toujours pas pourquoi la RTC, c'est pas une compagnie privée.
Parce que ce serait pas rentable.
Ben, t'aurais juste un service différent. Mais tu pourrais complètement privatiser la RTC, ça serait beaucoup mieux. Surtout que l'avantage de Québec, c'est que tu n'as pas le problème de Montréal avec le métro. Privatiser à Montréal, ce qui est difficile, c'est que tu as le métro qui crée une sorte de problème de monopole naturel par quasi-définition. À Québec, tu n'as pas ce problème-là. Là.
Non, exact.
Tu peux juste dire, on met en encan public certaines lignes de services qu'on estime essentielles. Toutes les autres, on laisse les gens offrir n'importe quel type de service sur ces lignes-là, tant qu'ils achètent une licence de 100 $ avec nous pour qu'on sache qu'ils font ce service-là. Puis qu'on peut se faire des inspections.
Un autobus diesel qui roule vide, là, tout le monde comprend que c'est un problème de productivité. Le chauffeur et le carburant qui est utilisé pour faire rouler l'autobus, qui n'a pas de passagers à l'intérieur, c'est un grand gaspillage de ressources. C'est quelque chose que dans une entreprise privée, tu essaies qu'il n'y arrive pas. Puis tu sais, je veux dire, j'ai connu au fil du temps dans ma carrière des gens qui étaient chauffeurs pour le RTC, qui étaient des clients chez nous. Je suis très content qu'il y ait des excellents salaires, ça fait qu'ils sont clients chez nous. Mais je veux dire, en termes de job, par rapport aux revenus qu'ils font, tu es obligé de te dire que c'est des emplois d'une extrême grande qualité dans la Ville de Québec. Les revenus sont excellents. Là.
Hey, juste pour le shits and giggles, la Ville de Québec dépense 250 millions sur le service de la dette tout seul.
Bien, les chiffres pour Montréal, Frank les partage souvent, mais présentement, 18 % des dépenses totales de la ville de Montréal sont pour le service de la dette. C'est majeur. Là. Quand tu dis que c'est 1 $ sur 5 qui sert à financer les vieilles décisions, tu dis que c'est hallucinant. Là. C'est vraiment hallucinant. Fait que, tu sais, 250 millions pour la ville de Québec, tu me disais un budget total de combien?
C'est
1,3 milliard.
1,7. Les dépenses totales, c'est 1,7 milliard.
1,7. Fait que la Ville de Québec est moins pire que Montréal sur ça.
Mais c'est un petit peu en bas de 20 %. C'est quand même 15%. Gros, là.
15 % pour la Ville de Québec, c'est 18 % pour la Ville de Montréal. Mais vous comprenez que ces villes-là ont des cristis de gros problèmes parce que même le gouvernement du Québec, son service de la dette n'est pas si important que ça.
Oui, effectivement. Effectivement, je pense, je suis sûr que je check pré-pandémie, parce que le chiffre est un peu vieux dans ma tête,
on est de l'ordre de 10 à 11 % au niveau du gouvernement du Québec.
C'est ça. J'allais dire autour de 10. Puis tu vois, là, ça donne une idée. Mais aussi, la dette nette du gouvernement du Québec, là, en pourcentage des revenus de l'État, de la Ville de Québec, pas du gouvernement du Québec, du gouvernement de Québec, la dette nette est à peu près égale
aux revenus.
Aux dépenses et aux revenus de la ville. Aux dépenses / revenus de la ville.
Ça n'a pas de sens.
C'est quand même, ça veut dire que ta capacité à emprunter. Ça, c'est la dette nette. C'est pas la dette brute. Parce que la Ville de Montréal, la Ville de Québec, excuse-moi, dans leur rapport financier, ce que je comprends, fuck all pourquoi ils font ça. Ils rapportent le service de la dette nette. Ils disent le service de la dette nette. C'est pas, t'as pas un service de la dette nette, t'as un service de la dette brute.
Ben, la dette nette,
ils disent...
T'as-tu déjà vu une entreprise privée parler de dette nette et de dette brute calvaire? Moi, j'ai jamais vu
ben,
ça.
Les compagnies privées vont dire c'est quoi leur equity, là, leur fonds. Leur,
bon,
leur fond
ils vont dire la dette, c'est la dette, asti. Il n'y a pas de nette et de brute, là.
Oui, bien aussi, c'est que j'haïs, by the way, l'idée de la dette nette comme économiste. Parce que oui, il faut que tu considères la valeur d'un actif, mais calice, l'actif, si tu me dis que tu ne vas jamais le privatiser, là,
ben, il vaut rien, ton actif.
Ben, il vaut rien. Puis non seulement ça, mais c'est basé sur une valeur comptable. On n'a pas fait d'enquête.
C'est
encore,
pas une valeur marchande.
On ne le sait pas, on n'a pas eu de test de marché encore sur c'est quoi la valeur de ça. Puis les cas de privatisation souvent qu'on a nous ont donné une littérature pour voir à quel point les villes ou les gouvernements de tous les paliers estiment entre la valeur comptable et qu'est-ce que les gens sont finalement prêts à payer. Ben c'est un petit peu plus bas que ce qui est rapporté. Puis les marchés le savent, c'est pourquoi. Si c'était vraiment si important que ça, ils offriraient des taux d'intérêt plus bas aux villes. Si la ville avait fait une promesse crédible de dire que ça, c'est un collatéral qu'on va vraiment privatiser si on a un problème.
Ouais, mais
et si les villes savent qu'ils ne vont pas le faire, ils vont juste demander des taux d'intérêt plus élevés. Fait que tout ce qui compte au final, c'est juste la dette brute. Arrêtez de me donner ce chiffre-là. La dette brute, c'est tout ce qui compte. Le reste, là, après ça, il y en a des tours de manipulation comptable là, qui sont faites pour convertir des actifs qui sont... Ben là, cet actif-là, tu sais, un parc. OK, un parc, c'est effectivement un actif. Il y a un terrain dessus. Mais je n'ai pas encore vu un marché des parcs.
Non, ça ne se vend pas bien, bien. Hein, pas très développé. Ben, en fait, le seul moyen de le vendre, ce serait de construire des maisons dessus. Là, vous avez compris. Mais ce qui arrive aussi dans ces histoires-là, c'est que ces concepts de dette-là, moi, je n'arrive pas à comprendre. La comptabilité, là, c'est quelque chose qui est utilisé pour standardiser les processus. Quand tu veux arriver et avoir une idée rapidement comment une entreprise se porte, tu vas voir les chiffres comptables qui sont publics généralement pour les compagnies inscrites en bourse, par exemple. Et c'est tout rapporté à peu près de la même manière. On sait exactement où aller vérifier les informations. On se donne une très bonne idée rapidement des ratios de dette par rapport à l'équité, des choses comme ça. Puis même quand tu vas dans des entreprises privées qui ne sont pas cotées en bourse, quand tu arrives, tu sais, moi, j'ai à faire ça souvent dans ma job, je veux pas, je travaille avec des entrepreneurs, ils me donnent les états financiers de leur compagnie, tout ça. Crime, c'est extrêmement facile de trouver de l'information puis se donner une bonne idée si l'entreprise est en bonne santé financière ou pas. Et honnêtement, là, en dedans de 5 minutes, là, je suis capable d'avoir une bonne idée de comment l'entreprise se porte. À toutes les fois que je m'en vais fouiller dans les états financiers des villes, des provinces ou du pays, du Canada, c'est un capharnaüm, c'est l'asile, il y a toutes sortes de terminologies que tu es là, tu dis « ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire réellement? » Puis le concept de dette nette, dette brute, des affaires-là, tu dis « it's all bullshit, it's all bullshit ». Ils taponnent les règles comptables, ils font à peu près n'importe quoi. Ouais. Puis justement, ces projets-là de tramway, là, je parlais qu'on essaie de refiler, ça c'est mon guess, puis j'en suis persuadé que c'est ça. Mais au niveau du provincial, il y a des passes croches de même qui sont faites également. Je te donne un exemple. Tu construis une école. Tu sais, on a fait des écoles lab là, à 2,2 millions de dollars par classe. J'y crois pas deux secondes. Je n'arrive pas à concevoir que c'est le vrai coût de tout ça. Mais on arrive, puis on construit cette école-là. Mais là, tu sais... comme un chargé de projet. Le gars, il travaille au ministère de l'Éducation, par exemple. Puis c'est lui qui va piloter le projet pendant les 2 prochaines années. Le ministère de l'Éducation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Hey, on va libérer Roger. Roger va aller travailler 2 ans pour le projet d'école LAM. » Il pogne son salaire et il crisse direct dans la dette. Là. Il sort le salaire de Roger des dépenses usuelles du gouvernement puis il dit « Lui, il est affecté à tel projet puis ça va aller se ramasser dans le coût total du projet qu'il est en train de faire. » Tu sais, il y a des affaires comme ça qui sont faites au niveau de la comptabilité gouvernementale, c'est la fameuse comptabilité créative qu'on appelle, parce que le gouvernement s'est donné comme des incitatifs de ne pas faire de déficit de son côté. Il y a des lois qui disent que tu dois avoir un déficit zéro, puis si jamais tu fais un déficit, il faut que tu reviennes à l'équilibre budgétaire en dedans de 5 ans, ainsi de suite. Fait qu'il y a un fort incitatif pour les gouvernements à garocher le plus d'affaires possible sur la dette, et le moins possible dans les dépenses courantes. Mais il y a beaucoup de ces projets-là, on est là, tu te dis, voyons, tabarouette, les dépassements de coûts sont gigantesques, puis il y en a tout le temps, puis sont prévus. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, je peux-tu avoir le détail exactement, c'est quoi qui a dépassé? Est-ce que c'est... Parce que dans la tête du public, c'est toujours la même chose.
Tu l'auras pas.
Non, je sais, mais dans la tête du public, c'est quoi? C'est l'entrepreneur, crosseur, privé, est arrivé puis a chargé deux fois plus cher qu'il avait dit au gouvernement. C'est ça que tout le monde pense. Mm. C'est ça que les gens pensent. La réalité, c'est que le gars a probablement chargé exactement le prix qu'il avait demandé au gouvernement. Puis s'il y avait des extras, des choses, c'était prévu au contrat, mais c'est pas ça qui a fait exploser le coût. Ce qui a fait exploser le coût, c'est le gouvernement qui est arrivé puis je vais libérer Roger, je vais libérer Ginette, elle a fait la comptabilité du projet. Il libère toutes sortes de salaires puis il garoche dans ces projets-là, puis ça lui permet d'envoyer ces salaires-là direct sur la dette.
Ben écoute, juste pour le fun, là, présentement, juste dans le bureau d'investissement de la Ville de Québec, tu as 48 personnes qui sont assignées au bureau de projet du tramway.
Eux autres, là, c'est plus des employés municipaux. Non. Ben, ils sont encore. Il a conservé ses avantages sociaux,
ils sont
pas en train
de faire, pension.
Ah, ben Dan Genet, je pense que c'est Morin qui a sorti ça cette semaine. Dan Genet, le chargé de projet, il est quasiment payé un petit peu plus cher que Koskinen. C'est comme genre 315 000, quelque chose comme ça par année. C'est le plus payé de la gang.
Juste pour montrer à Yann, là, la dette brute, c'est 2,1 milliards.
Hey. C'est de l'argent.
2,1 milliards.
Ça, c'est 2,1 milliards qui génèrent des intérêts. Là. C'est pas la dette nette. Là.
Yep, la dette nette, là, la vraie définition de la dette nette que je pourrais prêter à accepter, c'est les actifs que tu dois. C'est-à-dire que le gouvernement a des dettes que quelqu'un a vers lui. C'est-à-dire que si moi, je dois 3 000$ à l'impôt.
Mais même à ça, tu le mets dans l'actif.
Ben c'est ça, c'est un actif. Mais tu peux dire que oui, regarde, OK, j'ai une dette nette, mais Vincent, il me doit ça, je vais devoir avoir de l'intérêt de X sur ce qu'il me doit. Fait que tu sais, tu peux dire que OK, t'enlèves ça si tu veux. Ça, c'est la définition de dette nette que je suis confortable. Mais la réalité, c'est que ton service de la dette, je pourrais, moi, faire défaut sur mon paiement puis me quitter vers les États-Unis.
Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les
2,1 milliards, c'est sur ça que tu vas payer de l'intérêt.
Mais pourquoi les principes point comptables bon. Généralement reconnus, ou peu importe comment on les appelle, ils sont différents pour les organismes publics puis le privé?
Ça, honnêtement, il y a plusieurs raisons qui sont vraiment difficiles à simplifier. C'est parce que plusieurs de ce que tu vois pour des compagnies, tu peux présumer que l'information que le marché te donne s'applique à la compagnie. Mais le gouvernement, tu ne peux pas vraiment t'appliquer ça. Genre, me donner l'exemple classique, là, quand on dit « Ah, regarde, le gouvernement emprunte pour moins cher que les compagnies privées », puis il y a plein de gauchistes qui disent que c'est la raison pour laquelle on doit emprunter encore plus.
Justin Trudeau le dit carrément en 2015. Il dit « Les taux d'intérêt sont très bas, c'est le moment d'emprunter beaucoup. »
Oui, mais le problème de ça, c'est que il manque un coût. Il manque un coût très important. Un, c'est que l'État, quand il emprunte, il évince l'activité privée. Mm-hmm. Donc, tu as un coût que tu n'observes pas dans ce prix-là directement. De deux, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que le contribuable n'a pas consenti.
Non.
Fait que, il y a quelqu'un qui porte le risque. Ce n'est pas le politicien qui porte le risque. C'est le contribuable qui lui-même n'a pas consenti. Donc, tu n'es pas en train de mesurer le prix de les future liabilities que le contribuable vient d'avoir. Donc, il manque ça. Marcel Boyer, qui n'est pas un droitiste, soit dit en passant, Marcel Boyer qui écrit un livre qui s'appelle « La social-démocratie concurrentielle », ce qui devrait vous donner l'idée que c'est un gars probablement un petit peu à gauche du centre, qui aime les marchés. Lui, son article, un des articles qu'il a le plus écrit, c'est que ça n'existe pas l'argument que l'État emprunte pour moins cher. C'est juste qu'il emprunte visiblement pour moins cher, mais en réalité, le coût économique est probablement plus élevé parce que il y a quelqu'un qui s'est fait forcer de prêter ce qu'il n'aurait pas prêté normalement. Et non seulement ça, mais il aurait préféré ne pas prendre son argent de taxation et lui-même le prêter à 7% des compagnies.
Ah, puis il faut garder une chose en tête aussi, les entités gouvernementales comme les municipalités sont des créations du gouvernement provincial, donc empruntent, mais avec la garantie de papa en arrière. Puis même le gouvernement provincial, si je ne me trompe pas, il emprunte avec la garantie du fédéral en arrière. Puis
implicite pour le fédéral.
Implicite, exactement. Mais quand tu arrives, tu vas justement aux États-Unis, puis tu regardes le fonctionnement des villes, des entités municipales, tu te rends compte qu'il y en a au fil du temps qui ont fait faillite. Chose qui arrive pas au Québec.
Très récemment.
Exactement. Puis tu en avais une, Stockton, en Californie, qui avait fait un gros tabac parce que les employés de cette municipalité-là avaient perdu beaucoup dans leur fonds de pension. Puis, à vrai dire, quand tu regardais un peu, quand tu regardes les histoires de faillite de municipalités aux États-Unis, c'est tout le temps à peu près la même affaire. C'est des fonds de pension trop généreux, c'est un manque de productivité des employés, des trucs comme ça, puis ça amène à une catastrophe. Mais eux, justement, ils doivent emprunter sur le marché des bonds, municipal bonds, qui est quand même avantageux pour les investisseurs aux États-Unis. Là. Gardez une chose en tête, là, les municipal bonds, je pense que c'est-tu l'intérêt qui est déductible ou quelque chose comme ça?
Oui, c'est l'intérêt qui est
déductible. Exact. Fait que il y a un grand incitatif financier pour les investisseurs d'acheter ce type de produit-là de leur côté. Fait que ça donne une source de financement aux municipalités qui est très grande quand même, même s'ils n'ont pas le backing de l'État ou des États-Unis en arrière. Il y a quand même un incitatif fiscal très grand là-dessus. Mais il y a une imputabilité qui est là. C'est qu'à un moment donné, quand la municipalité commence à être mal gérée, commence à avoir un ratio de dette trop élevé, est menacée de faillite et les taux d'intérêt qui est exigé par les marchés à ce moment-là, c'est des taux d'intérêt de junk bonds. Puis ça, c'est les mécanismes naturels qui permettent...
un peu de discipline.
Exactement. Mais là, la structure qu'on a au Canada est complètement folle. C'est comme, fais ce que tu veux. De toute façon, papa Legault est en arrière puis il back. Fait que là, qu'est-ce que tu te ramasses?
Papa Fitz.
Papa Fitz. Mais là, tu es vraiment dans une situation où est-ce que tu te rends compte qu'ils n'ont aucun incitatif à bien gérer leur budget. Puis tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire exactement ce que Valérie Plante a passé sa semaine à faire la semaine passée. C'est de dire si tu as des difficultés financières parce que tu as de la misère à financer ta nouvelle dette ou encore que ton service de la dette est rendu à 20% de ton budget, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir une présence médiatique suffisante, d'aller brailler qu'on ne t'envoie pas assez d'argent, puis de négocier des nouvelles taxes.
Sais-tu quoi le danger? Il y a un truc qui s'appelle le flypaper effect. Le flypaper effect, ce qu'il dit, c'est quand quelqu'un finance une partie de tes dépenses, oui. puis c'est un niveau de gouvernement supérieur qui te transfère ça, tu as moins de contrôle sur tes dépenses. C'est-à-dire que tu dépenses plus parce que tu sais que le coût est délégué à une tierce partie qui n'est pas une partie de tes contribuables.
Exact.
L'effet est que généralement, ces gouvernements-là, lorsqu'il y a des flypaper effects, ça s'applique pour la péréquation canadienne, by the way. Si tu n'avais pas la péréquation canadienne, je te garantis que le gouvernement du Québec est massivement plus petit qu'il l'est présentement.
100% d'accord.
Ben, tu as la même chose pour les villes. Les villes sont probablement plus grosses. Certaines villes, en passant, sont probablement plus grosses en termes de taille du gouvernement qu'elle ne le serait s'il n'y avait pas les transferts. Je suis sûr qu'en fait, probablement, ce qui se passerait, c'est que tu as plusieurs petites villes au Québec qui reçoivent proportionnellement beaucoup moins d'argent face à leurs ressources que
la
ville de Québec ou Montréal.
Il y a une compétition
et que
au niveau
eux,
des maires.
On serait probablement, aurait plus d'investissement dans ces petites villes-là par le gouvernement municipal que si on envoie à Québec. Donc, il y a quelqu'un qui finit par payer une facture quelque part parce que le gouvernement municipal, le gouvernement provincial n'investit pas autant dans cet endroit-là ou n'achète pas autant de biens publics dans cet endroit. Donc, cet endroit-là souffre un peu plus. Fait que genre, Cabanneau, probablement, aurait, si tu n'avais pas les transferts vers Québec, Montréal puis les autres grandes villes québécoises, ces petites municipalités-là auraient probablement plus de services publics qu'elles ne l'auraient présentement. C'est poche pour eux, mais c'est ça qui se passe.
Tu sens le niveau de compétition au niveau des maires a vraiment monté parce que tu vois vraiment qu'ils font tout ce qui est possible de leur côté pour essayer d'aller chercher l'argent de grand-papa ou grand-maman. Parce que, prends Catherine Fournier, tu sais, elle est mairesse de Longueuil. Là. Mais je veux dire, avant Longueuil, là, on s'en foutait-tu, tu penses, de Longueuil? Ça faisait pas partie des bulletins de nouvelles, Longueuil, puis tout le monde s'en foutait un peu. C'est sûr que la mairesse d'avant en a profité pour augmenter son salaire un peu, beaucoup, à l'abri de tous, là, mais bon, peu importe. Mais Catherine Fournier, elle arrive là, tu sais, belle jeune femme, bonne communicatrice, ex-députée, tu sais, elle a tout pour elle, vraiment, pour attirer le regard des caméras, et elle met Longueuil sur la map des subventions publiques. Je veux dire, tu sens qu'il y a un niveau de compétition qui est élevé, tu vois que Longueuil veut avoir sa part du gâteau. Et ce qu'elle propose aux politiciens provinciaux ou fédéraux, c'est quoi? C'est venez prendre des belles photos chez nous. Venez faire tel projet, vous allez avoir une belle photo avec Catherine Fournier, vous allez couper un beau ruban, puis ça va être bon pour votre image. Tu sais, c'est pas dit implicitement, mais c'est ça, la mise en scène qui est faite dans toutes les municipalités du Québec présentement pour aller s'arracher une partie du gâteau. c'est d'avoir une présence médiatique soutenue, constante et de valoir cher dans l'œil des médias pour être capable d'attirer de l'argent chez eux. Le maire de Laval, on n'entendait jamais parler de lui. Là, à cette heure, on le voit constamment. Puis ça, c'est un effet aussi inattendu, je pense, des fusions municipales. Quand on arrive et on fait les fusions municipales, comment on vend ça à la population? On dit, ben écoutez, les économies d'échelle. Si on est une plus grosse ville pour acheter les mêmes produits et services, on va avoir des économies d'échelle. Fait que c'est sûr qu'on va sauver de l'argent. Qu'est-ce qui arrive en réalité? C'est qu'on met toutes les conventions collectives ensemble, on fait du cherry picking, puis on s'assure de garder les meilleurs éléments de chacune des conventions. Fait que là, ça augmente les coûts très rapidement. Et ensuite de ça, on augmente les taxes municipales à la hausse de tous ceux-là qui payaient moins cher sur une quinzaine d'années. Ça, c'est le deuxième effet négatif qui est arrivé. Et le troisième effet négatif, on a créé des entités tellement puissantes que les maires de ces villes fusionnées-là ont beaucoup de pouvoir et ont même du pouvoir sur le politicien provincial. Le maire de la ville de Québec, s'il veut faire chier un politicien fédéral ou provincial, il est capable, parce qu'il y a assez d'exposure médiatique maintenant pour y arriver. Mais le secret d'avoir cette exposure médiatique-là, c'est d'être maire d'une grosse ville. Puis quand on est rendu à 650 000 habitants pour la grande ville de Québec, ben ça donne un pouvoir qui est quand même assez important. Tandis que quand le maire de la ville de Québec se concentre juste à la haute ville, puis que là, il y a un maire à Sainte-Foy, puis il y a un maire à Sillery, puis il y a un maire à Beauport, puis il y a un maire en Seine-Lorette, puis on comprend un peu l'idée. Ben, son pouvoir est beaucoup plus dilué. Moi, je pense que l'époque des petits maires dans des petites municipalités, elle avait vraiment un gros avantage à nous protéger, nous, les citoyens, contre cette surenchère-là de taxation puis d'exposure médiatique pour demander un peu plus d'argent public tout le temps.
Oui. Ben écoute, je viens d'envoyer un lien, puis le lien va automatiquement te diriger vers la citation clé de l'étude. Depuis comme les années, fait qu'il y a un modèle bien connu, qui est que, ça s'appelle le modèle Thibault, qui est que les gens, quand ils se déplacent entre les villes, ils peuvent forcer les villes à se faire compétition pour des biens publics. L'effet est, c'est que les villes produisent mieux de ce que les gens veulent vraiment. Et tu as plus de croissance économique dans ce cas-là, parce que les villes produisent des choses qui sont vraiment bénéfiques pour la collectivité, puis pour la collectivité particulière dans laquelle ils sont. Mais si tu as de plus en plus de grosses villes, donc tu fusionnes les villes ensemble, donc tu as moins d'options vers où quitter. Fait que tu sais, si vraiment, disons, je veux quitter Montréal, ben avant, je pouvais quitter Montréal-Est pour, disons, Baie-Durfée ou Dorval. Mais avant, à Québec, tu pouvais quitter la ville de Québec pour, c'est quoi, les anciennes agglomérations qui étaient séparées? Ancienne Lorette, Beauport, c'était
une ville. Oui, Beauport, c'était une ville.
Tu avais une ville de Beauport. Bon, mais tu pouvais te déplacer dans la même zone, tu pouvais te déplacer vers une autre administration, donc tu avais une sorte de compétition. Bien, ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as une taille optimale des villes. Tu ne veux pas avoir des trop grosses villes. Tu veux pas avoir des trop petites villes parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des économies d'échelle. Mais à un moment donné, les économies d'échelle viennent. Tu peux en avoir plus, mais en même temps, il n'y a plus la dynamique de discipline qui est imposée par la capacité des gens de dire « non merci, je m'en vais ». Puis là, l'effet des économies d'échelle, même si elles existent, est complètement éliminé. Puis l'étude que je viens d'envoyer à Yann, la quote qui dit « Small cities with a population of less than 500,000 inhabitants seem to have an important source of economic dynamism. By contrast, a large share of the urban population living in cities between 500,000 and 3 million people has been detrimental to economic growth. Tu veux pas des super grosses villes. Ça veut pas dire pas des grosses régions métropolitaines. C'est correct d'avoir un gros zone métropolitaine de Montréal. Mais dans la zone métropolitaine de Montréal, tu veux pas une administration pour la zone métropolitaine de Montréal.
Tu veux
plusieurs petites administrations qui vont se faire compétition dans cette zone-là pour des contribuables, pour des services publics, pour attirer des gens. Et le résultat, c'est que tu vas avoir, un, des services publics qui sont plus efficaces, des taux de taxation qui sont plus bas, mais aussi des biens publics qui sont orientés pour la croissance économique, pour le développement. Et là, tu vas avoir des meilleurs résultats. Présentement, ce que tu vois à Québec, je suis sûr que si tu te remontes à 2001, avant les fusions municipales, jamais, mettons que Bruno Marchand se fait élire en 2001, ou même se fait élire aujourd'hui avec le même contexte qu'aujourd'hui, la seule différence, c'est que c'était une différente administration, bien, Bruno Marchand,
Il n'y en a pas de tramway.
Ne propose même pas le tramway.
Ben non, il n'y en a pas.
Parce que tout le monde dirait, ben non, je vais m'en aller à Beaupré, je vais m'en aller à Beauport, je vais m'en aller à Charlebourg, je vais quitter, puis go fuck yourself.
Ah, exactement.
Je te jure que c'est le fait que les fusions municipales, c'est probablement la pire chose qu'on a faite au Québec. Puis t'as raison quand tu dis que, voyons, Valérie Plante ou Catherine Fournier, parce qu'avant, t'avais Longueuil-Est, t'avais Longueuil-Ouest,
Brossard.
T'avais Saint-Lambert, la République de Saint-Lambert qui a réussi à se séparer. Saint-Lambert toujours fière et indépendante. T'avais Greenfield Park, t'avais Saint-Hubert, t'avais plusieurs villes qui étaient en fait, la région était là. Je veux dire, un gars de Saint-Lambert, à part moi, je suis fier d'être de Saint-Lambert, mais à part les gens de Saint-Lambert, aucun problème à aller à Longueuil. Là, c'est pas de traverser. On n'est pas dans une région différente, c'est carrément juste un différent quartier.
Ben oui.
C'est juste un quartier avec moins d'anglophones, à toute fin pratique. C'est juste ça. C'est juste ça. Il y a moins d'anglophones quand je traverse cette rue-là. Ben, il va en avoir plus quand je reviens de mon bord.
Mais
au final, c'est juste
ça. Ça a-tu été discuté, ces affaires-là, en 2001, où on a juste arrivé puis on a vendu... Tu sais, parce que ça a été exigé des... Cabano a été...
Non, ça a été exigé par Montréal.
Ah, mais il y a eu d'autres choses. Je veux dire, Cabano, récemment, a été fusionné. Dans la vague de fusion municipale, le petit village d'où je viens, 4000 habitants, Cabano, Notre-Dame-du-Lac, deux villages séparés. En 2001, c'était deux villages séparés. C'était pas fusionné. La fusion est arrivée par après. Mais ce qu'on se rappelle de ce petit village-là qui veut se fusionner, c'était quoi la motivation principale? C'était le maire qui voulait avoir plus de pouvoir. C'est le maire de Notre-Dame-du-Lac qui trouvait que s'il était maire des deux villes en même temps, il serait capable d'avoir plus de poids, puis de négocier des plus grosses choses, puis tout ça. Ce qui motivait les maires à pousser ces idées-là de fusion municipale, c'est d'augmenter leur pouvoir politique, ce qui est très humain. Dans l'histoire de l'humanité, des hommes politiques qui veulent augmenter leur pouvoir politique, c'est arrivé très souvent. L'argument présenté, c'est toujours les économies d'échelle. Mais en bout de ligne, tu te ramasses dans des situations où est-ce que tu as juste donné plus de pouvoir à quelqu'un, puis tu n'as pas eu ces fameuses économies d'échelle-là en bout de ligne parce que tu as eu les fusions de conventions collectives qui t'ont nui. Puis en bout de piste, tu sais, sérieusement, à part avoir créé plus de pouvoir politique à une personne, ils sont où les bienfaits? Puis c'est même pas un bienfait en soi, cette affaire-là. Fait que j'ai l'impression que ça n'a jamais été présenté à la population. Ce type d'argumentation-là. On a tout le temps dit, ben, les économies d'échelle versus, ben, c'est de la merde présentement. Tu sais. On n'a pas eu un vrai débat sur ces fusions-là. Puis, tu sais, par après, quand Jean Charest est arrivé avec les défusions, qui étaient un peu du gros n'importe quoi aussi, faites un peu tout croche, sans trop de raison, ben...
Non, la raison était très claire. Il ne voulait pas que ça se passe. Il s'était commis là-dessus. Il ne pouvait pas vraiment reculer, mais il ne voulait pas le faire non plus.
Parce que ça a été. Ça, ouais. Les référendums qui ont été faits pour les défusions ont été construits de manière à ce que ça ne fonctionne pas.
Oui, puis tu sais, tu avais bien des maires qui étaient très contents de la situation. Même Gérard Tremblay, qui s'était fait élire en étant anti-fusion, était vraiment très fan des fusions. Ben, Gérard Tremblay, il tripait sur son pouvoir. Fait qu'au final, les seuls gens qui avaient été contre les fusions en 2001, c'était l'Institut économique de Montréal, à sa défense et à sa faveur, et les petites villes qui se voyaient comme étant très distinctes des grosses agglomérations autour desquelles étaient donc le West Island de Montréal, Saint-Lambert sur la rive sud, où est-ce que tu avais une hostilité incroyable. Et aussi, des fois, des petites villes qui étaient un peu plus pauvres, genre Greenfield Park. Greenfield Park est comme la ville pauvre de la Rive-Sud, de Montréal. Et c'était juste des anglophones, là. Et eux, ce qu'ils voyaient, c'est, un, on est des anglophones, fait qu'il y a zéro chance qu'on va se faire respecter. Puis là, non seulement ça, on est des anglophones pauvres. Fait qu'il n'y a aucune chance qu'on va se faire écouter anyways. Fait qu'eux voulaient vraiment rester, puis ils avaient voté pour la diffusion, mais il n'y avait pas assez de gens qui étaient allés voter, fait qu'ils sont restés membres de Longueuil. Fait que là, t'as comme un trou, by the way, quand tu votes à Longueuil. T'as le Saint-Lambert qui cause que Greenfield Park est une enclave de Longueuil qui est géographiquement isolée du reste de la municipalité. À cause de ça.
Ben, c'est comme Ancienne-Lorette. Ancienne-Lorette s'était défusionné principalement parce que les revenus de taxes de l'aéroport ne voulaient pas les partager. Mais finalement, ils se sont fait crosser par l'agglomération parce que l'agglomération de la région de Québec charge des montants à Saint-Augustin et à Ancienne-Lorette qui sont quand même démesurés. ça fait tellement une grosse facture que ça l'occasionnait des augmentations de taxes municipales dans ces municipalités-là très importantes. Puis, la manière que c'est fait, c'est que pour la cote-part, je pense qu'il appelle, pour voter pour la cote-part, ben le maire de Québec avait plus de poids que les autres, fait que ça passait tout le temps. Fait que le maire de Québec, quand il voulait faire chier le maire d'Ancienne Lorette ou le maire de Saint-Augustin, il augmentait la cote-part, puis ça faisait chier les deux autres places. Hein, t'es là, tu dis, Chris, dans quel monde on a pu... Tu sais, là, on a la poutine qu'on a présentement, tu dis... Jamais dans 100 ans que si on avait voulu designer le système from scratch, on serait arrivé à ça. Mais on est arrivé à ça parce qu'on a fait des fusions avec des défusions sans conviction par après. Puis ça a donné ce cafarnaum-là qui est complètement hallucinant. Mais t'es là...
Un shit show.
Ah, c'est un shit show. C'est vraiment un shit show. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que la méthode de l'époque, des années 70, d'avoir des petites municipalités, même à l'intérieur des grandes villes, était plus efficace. Puis ça nous aurait vraiment évité beaucoup, 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 beaucoup de cochonneries avec toutes ces histoires-là de méga-projets puis tout. Parce que si tu as la mairesse de Sainte-Foy, le maire de Québec, le maire de Beauport, le maire de Charlebourg, jamais qu'ils s'entendent ensemble pour faire un projet du type tramway. Jamais, jamais, jamais. Ça arrive pas. Mais maintenant qu'on a donné les clés à un seul gars, ben ça l'arrive. Écoute, on passe à la partie Patreon. Ça fait une heure, dans le fond. Fait que un petit peu plus déjanté toujours de notre côté sur Patreon avec Vincent, généralement. On sortit un peu moins bien, malgré qu'on a quand même parlé de tes anciennes amours dans la partie live.
Ben, c'est pas le meilleur mot, là. Je pense pas que c'était de
l'amour. Fréquentation.
Mais c'était une fréquentation d'une personne qui est autrement plaisante, mais déplaisante de par ses vues.